Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a un truc que t'as pas le droit de dire aussi sur le bateau, mais bon, ça c'est peut-être classique ça.
Ouais,
ça coule.
Ouais. Oui, ça fait peur aux gens. Ouais.
Non, oui, il y a un animal dont tu dois pas parler sur les bateaux.
Okay.
Et oui, ça date de il y a hyper longtemps, ouais, depuis l'invention des bateaux, j'ai l'impression.
C'est comme pas mettre deux verres au théâtre comme ça, c'est la superstition.
C'est la superstition. Donc c'est le... je peux le dire.
Celui qui a les oreilles là derrière.
C'est pas le lièvre, c'est l'autre avec les oreilles.
Mais on n'est pas sur un bateau, là, on peut le dire.
Oui, c'est vrai. Oui. Et donc c'est le lapin.
On est en train de voyager sur le bateau. Tout à l'heure, j'ai dit on met les doudounes et tout là.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invitée du jour est la journaliste et vulgarisatrice scientifique Léa Bello. Elle partage son savoir sur sa chaîne YouTube, mais aussi chez Le Monde, Arte et la chaîne Avide de Recherche. Avec son doctorat en géophysique et son passeport dans la poche, elle est conviée à des missions scientifiques partout dans le monde. Par exemple, il y a quelques mois, elle a passé 40 jours sur un gros bateau en mission océanographique près du pôle Nord pour récupérer des petites bouées immergées au milieu de nulle part avec des petits micros dedans, de l'eau de mer se trouvant à 4800 mètres de profondeur et des organismes transparents un peu dégueux. Et je peux vous dire que les chercheurs et les chercheuses ont eu v'là la poisse sur ce bateau et ça, c'est parfait pour un bon épisode de Tourista. Mais avant que Léa nous raconte ça et ses autres aventures, qu'on enfile nos manteaux et qu'on croise des manchots... Merde, j'ai vraiment écrit ça. Je dis bonjour à Marie.
Bonjour Maxime.
Ça va?
Ça va super, et toi?
Ouais, ça va. Tu connais la différence entre les pingouins et les manchots, Marie?
Mais tu sais que oui.
Ah bon?
Et que...
bah oui.
C'est bah, tu verras plus tard.
Ah, il y a peut-être un petit quiz autour de ça. Bah, c'est parce que c'est Léa, dans sa vidéo, elle a croisé des manchots. Donc maintenant, je sais. Ça va, Léa?
Ça va.
Eh bien, est-ce que tu es prête à nous faire voyager aujourd'hui, Léa?
Oui, tout à fait.
Docteur, il faut que je t'appelle docteur?
Non. Bon. Non, non.
Ok, alors j'appelle pas docteur, j'efface ça de mon truc. J'ai beaucoup envie qu'on parle de cette aventure que tu as faite sur ce bateau, parce que tu l'as raconté sur YouTube et c'était incroyable, il s'est passé des trucs de fou. Évidemment, tu vas nous raconter tout ce que tu veux d'autre de tes aventures autour du monde. Et le premier exercice dans Tourista, il faudrait que tu te présentes en anglais, comme si tu étais dans une auberge de jeunesse avec plein d'étrangers autour de toi.
Oui, j'avais oublié ça. Hi, I'm Léa. I'm a journalist. I'm a video maker also, and I mostly work on scientific stuff. I'm really pleased to be here with you. I hope you have some funny things to tell me about the place and to...
J'y suis, hein.
Ouais, voilà. Donc franchement...
A lot of advice.
Il y a le also, les trucs comme ça, c'est vraiment des petits mots, moi, que j'arrive pas à les placer. Hein,
ah donc ouais
je, bah, also, tu sais, non, also. Franchement
ouais, si,
c'est quand t'es fluente, quoi, que tu me payes le also, non?
Non, bah... mais tu fais trop de compliments. Je, suis
je pense qu'elle est fluente ou quasi fluente, mais also, je pense que bah écoute, ce sera ton défi de le prochain voyage.
Bah nickel. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ton rapport au voyage en quelques mots, s'il te plaît, Léa?
J'ai un rapport très intime au voyage.
Excellent.
Oh, wow.
Non, j'adore ça. En fait, c'est le plus compliqué, c'est de me aujourd'hui que j'essaye de me restreindre pour des raisons écologiques. Et en fait, en vrai, c'est difficile. Mais j'ai choisi, je pense, en partie mon taf pour ça, pour voyager, voir d'autres endroits, d'autres personnes et découvrir des gens qui font les choses d'une autre manière que nous.
T'as commencé à voyager vers quel âge?
Je pense... mon père est italien, donc déjà tous les étés on allait en Italie. Je sais pas si ça compte comme un voyage, mais bon.
Ah bah si, si.
Il y a quand même 9 heures de trajet, donc oui, c'est un peu un voyage. Et puis après, Je pense qu'on a fait de la rando avec des amis dès le lycée. On partait en sac à dos avec un billet de train pour aller à un endroit et un billet de retour à un autre endroit. Il fallait qu'on marche entre les deux.
Et, trop bien.
Genre j'aime. Deux semaines. Voilà, donc j'ai visité la France comme ça. C'était bien.
Attends, trop bien.
Trop bien.
Voilà.
Tu vas nous raconter ça.
C'est une bonne idée de,
ah ouais,
une bonne idée de voyage.
Je l'ai fait un peu en vélo cet été.
Ouais.
Parce qu'en fait, nous, on a mis les vélos dans le train et on a fait le vélo et après, on a remis les vélos dans le train. Mais t'avais pas de vélo, donc
voilà. Non,
c'est vrai. Dans ton travail, tu fais plusieurs projets donc, où tu te déplaces. Je sais que t'as collaboré avec Théo de Balade Mentale.
Ouais.
T'as fait le truc dans la grotte?
Ouais, aussi. Oh, c'est même moi qui ai invité Théo, oui, à venir.
Je me souviens que tu m'avais dit ça. Donc ouais, bon, on parlera de toutes ces belles choses et puis de tes voyages aussi, autres si tu le souhaites. Mais avant, Marie a beaucoup bossé, comme à son habitude. Elle est... Voilà, je la laisse. Débrouille-toi,
mais...
Marie.
Ouais, ok, bah, je vais me débrouiller. Mais on a eu une petite conversation avec Maxime avant que tu arrives. Et voilà, je dois être tout à fait honnête, je ne sais pas exactement ma géographie. Donc l'Antarctique et l'Arctique, pour moi, sont un peu tous...
Elle pense que la Terre est plate, quoi.
Je suis platiste, je vous apprendrai ici en premier. Yes.
Non, mais en fait, attends, pour essayer de te défendre, il y a des gens qui ont mis un tableau qui est exposé, ouais, depuis 70 ans dans le mauvais sens.
Ah,
ok,
oui.
Quoi? Il y a un tableau de Mondrian, ouais, qui est exposé dans le mauvais sens depuis 110 ans. Ouais. Donc Marie, tu vois,
c'était moi aussi.
Ton planisphère, peut-être il fait la gueule aussi.
Non, mais
ça.
Après, vous allez voir, je vais retomber sur mes pattes parce que c'est un quiz spécial pingouin. Et donc, tu me demandais la différence entre les manchots et les pingouins. Effectivement, les manchots ne sont pas des pingouins. Donc on ne va pas parler de manchots ici. Voilà.
Ah,
donc,
d'accord.
On va parler
Ok.
Mais en vrai, c'est une erreur que beaucoup de gens font.
Oui,
pôle,
oui,
Nord,
c'est
pôle
commun.
Sud. C'est...
D'ailleurs, quand on va sur Wikipédia et qu'on tape le mot pingouin, il explique que c'est un mot que l'emprunt habituel, c'est pour parler des manchots.
Okay. Ouais. Vous n'êtes pas compris, il y a eu un...
Non, je disais par rapport à l'Antarctique et l'Arctique.
Ah oui, pardon.
C'est une erreur que les gens font souvent.
Ah oui, c'était complètement autre chose.
Bon, ouais, non, mais les pingouins aussi, c'est une erreur que les gens font souvent.
Bon, et bon. Je sais pas lire l'heure. Et bref, toutes les bases. D'un enfant à peu près 8 ans, je les ai pas. C'est pas grave, puisque je reste sympathique. Il n'existe aujourd'hui qu'une seule espèce de pingouin encore vivant, donc pas les manchots. Comment s'appelle cette espèce? Petit 1, le petit pingouin. Petit 2, le grand pingouin. Petit 3, le pingouin rigolo.
C'est le grand pingouin qui reste.
Oh oui, je pense.
Et non, c'est le petit.
Oh,
elle nous a eu.
C'est le petit pingouin et le grand pingouin et l'espèce donc qui a disparu. Deuxième question. Les pingouins ont perdu la capacité de voler il y a vraiment très 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 longtemps, mais leurs nageoires et leur corps font d'eux d'excellents nageurs et d'excellents plongeurs. À votre avis, combien de temps les pingouins peuvent rester sous l'eau environ?
C'est sûrement très long, mais alors combien, je sais pas, 20 minutes?
Et bah, assez à pic, pile poil.
Oh, non,
20
vrai.
Minutes.
Wow.
Ouais.
Putain,
environ 20 minutes.
Elle est bluffante. Waouh.
Bon, vous inquiétez pas, on va aller sur vraiment des questions beaucoup, beaucoup plus difficiles. Dans le film Batman, le personnage Le Pingouin déteste Bruce Wayne. Mais pourquoi?
Alors oui, bah justement, dans Batman, c'est un manchot, dans l'appellation française.
Oui.
Mais sauf que le manchot, ça aurait été vachement moins fun comme nom de méchant.
C'est vrai.
Puis avec Le Pingouin, c'est pas...
c'est pas hyper,
c'est pas
méchant.
C'est effrayant, ouais. Alors, pourquoi...
On apprend plein de trucs, en vrai. Pourquoi il s'aime pas? Non, putain, la honte, si je trouve pas ça. Attends, j'étais baigné là-dedans.
Plus ou moins la honte que pas savoir la différence entre l'Antarctique et l'Arctique.
Non, mais tout le monde fait l'erreur de l'Antarctique et l'Arctique, Marie, t'inquiète pas.
Je sais pas, parce que Batman, il peut voler. Attends. et pas le pingouin. Sans déconner, ça pourrait être ça.
Attends, parce qu'il était... il était abandonné, le pingouin, et je sais pas, il y a pas un truc parce que l'autre est riche et l'autre il est pas riche, et... c'est ça?
T'es pas loin, Maxime.
Il y en a un, il a ses parents adoptifs, ils étaient hyper riches à Bruce Wayne et pas celui du pingouin.
Eh bien, c'est que la famille Wayne serait responsable de la ruine de la famille du pingouin, les Cobblepots.
Très fier de moi,
bravo.
Sur celle-ci.
Bravo, bravo. Compléter les paroles de la chanson de Piglou, le papa pingouin.
Attends, je suis super forte, ça.
Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin voudrait, petit 1, dormir sur sa banquise, faire sa valise ou aller au Belize.
Faire sa valise. Sa valise.
Ah. Bah pingouin, oui, c'est ça. Et j'ai relu les paroles complètes de cette chanson. C'est un peu glauque, hein.
Tout à fait. C'est carrément glauque. C'est le papa pingouin qui veut quitter sa famille pour aller voir ailleurs.
On est sur un abandon de père, quoi.
Ah ouais.
Elle est horrible, voilà. La chanson.
Alors qu'en vrai, les manchots, pour le coup, ils sont hyper cool en termes de gestion familiale.
Bah oui.
Il me semble.
Ils restent en couple toute leur vie. Et comme les pingouins, d'ailleurs. Donc en fait, on le confond père, les manchots et les pingouins. Mais...
Le père, le géniteur de l'œuf peut aussi bien garder l'œuf. Il se relaie pour aller dans l'eau.
Ouais.
Il cherche à manger.
Ça, c'est progressiste.
Oui. Bon, après, ils sont très monogames, je crois. Ouais. Ils restent en
duo. Il n'y a pas de couple libre.
Non, pas tant. Allez, dernière question. Je reprends la question un peu sérieuse sur les pingouins. En quelle année les Kinder Pingouis, génoise, chocolat noir, fourré lait et cacao, ont-ils été commercialisés en France? En 1975, en 1988 ou en 1996?
96.
Wow.
96, j'étais là pour la naissance des Kinder Pingouis, je me souviens très bien.
Ok, bah je vais suivre Maxime alors.
Eh bien, c'est bien 96.
Bien sûr,
attendez. Et pour la petite info, j'ai pas choisi les autres dates par hasard, puisqu'en 75, c'était le Kinder Surprise, et en 88, le Kinder Country.
J'adore ta question.
Donc voilà, le Kinder Pingouis, c'est 96.
Et c'est le dernier, du coup.
Eh ben, on s'en est sortis dans ce quiz, hein.
Bah oui.
Hein, bravo, merci Marie.
Non, je ne sais pas, tu vois, en étant un peu...
Allez, j'en ai une pour toi, Marie.
Oh, waouh.
La migration nicté... Non,
ah bah...
Eh ben voilà, c'est loupé. La migration nictémérale, ça te parle un peu?
Bah ouais, de ouf. Je fais ça tous les week-ends.
Bah, il vérifiait ça sur le bateau sur lequel était Léa. C'était un des trucs que tu devais faire.
Alors, c'est pas exactement moi qui le faisais, mais
non,
oui. Je regardais qui le faisait bien. Oh, oui. Ah oui, vous le regardez bien. Oui.
Mais à la fin, tu captais un peu mieux ce que c'était la migration nictémérale. Quoi.
Ouais. Est-ce qu'on peut faire un point sur la migration nictémérale?
Et donc, moi, perso, pour arriver à me souvenir du mot, pour pas galérer, ça passe hein, si je dis nique ta mère.
Ah oui, bien sûr.
Donc voilà, c'est ça, nique ta mère. Et donc, bref, c'est la migration, une des plus grandes migrations sur le monde vivant, et qui a lieu dans les océans. Et en gros, c'est que la nuit, les organismes un peu plus gros, ils montent pour manger, et le matin, ils descendent.
Okay.
Donc voilà, si tu montes pour manger, par exemple, si tu habites en dessous d'un supermarché la nuit, tu montes, tu vas manger, tu redescends, on peut dire que tu fais une migration nictémérale.
Alors du coup, j'étais pas complètement en tort.
Quand tu auras ta petite maison.
Eh oui.
Bon, alors en fait, moi j'aimerais trop que tu nous racontes cette aventure, comment c'est arrivé, comment tu t'es retrouvé sur ce bateau et que tu nous expliques les péripéties, parce qu'il y en a eu pas mal. Alors comment tu t'es retrouvé à suivre ces chercheurs et ces chercheuses sur ce bateau? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, j'aime bien suivre les chercheurs sur le terrain. À la base, j'ai fait de la géologie pour aller sur le terrain, justement. Et donc là, j'avais envie de faire une série là-dessus sur ma chaîne. Donc j'ai contacté des chercheurs.
Ouais.
J'ai fait un dossier de présentation et j'ai essayé de contacter des chercheurs qui travaillaient plutôt sur les thématiques liées au climat, à l'environnement, à la biodiversité. Un des labos qui m'a répondu, c'est le labo L'Océan, qui travaille, comme son nom l'indique, en océanographie. Et donc il y a un des chercheurs qui m'a répondu, qui est embarqué sur une mission qui est tous les ans, en janvier-février, entre l'océan Indien et l'océan polaire arctique. Non, justement, Antarctique.
Ah,
voilà. entre l'océan Indien et l'océan polaire Antarctique, donc, et sur le bateau qui s'appelle le Marion Dufresne, le navire qui est appareillé scientifiquement pour ce type de mission. Et ils m'ont proposé de venir parce qu'il leur restait une place. Et j'ai dit oui. J'ai dit ouais, allez, c'est parti. Ils m'ont dit c'est un mois et demi. J'ai dit ah ouais, bah oui, c'est parti.
T'avais déjà fait un truc comme ça, de rester un mois sur un bateau? Non, bah non.
Sur un bateau,
ça,
non, ouais,
ça
non.
Trop bien.
Et donc je savais pas non plus si j'allais avoir le mal de mer.
Ah oui.
Spoiler, oui. spoiler aussi, on s'en sort très bien en fait. Notre corps est c'est assez fou ça.
Il s'adapte.
Ouais, il s'adapte à fond. En gros, le premier jour en mer, Bon, c'était compliqué parce que on est parti, on avait un cyclone qui nous poursuivait.
Ah oui, la première. Alors ça, c'est une première poisse. Attends, la première poisse, c'était même pas ça.
Alors la première poisse, c'était au tout début. Ouais. On était censé partir début janvier et puis on a un conteneur avec tout le matériel scientifique, donc tout ce dont les gens ont besoin sur le bateau.
Un vrai conteneur. Hein.
Mmh. Ouais, qu'ils ont envoyé depuis la France et qui devait transiter jusqu'à la Réunion, là où est le départ du bateau. Et le conteneur n'est pas arrivé. En fait, comme c'était, ils nous ont dit que c'était à cause du Covid, il y a eu des chargements à d'autres endroits, machin. Il n'avait pas embarqué sur le bateau sur lequel il devait embarquer, et donc ce pauvre petit conteneur s'était retrouvé sur un autre porte-conteneur qu'on suivait. Donc j'ai appris à suivre les bateaux. T'as des moyens de suivre sur internet les trajets des bateaux et tout ça.
Ouais,
c'était un peu la quête.
Ça tout le temps. C'est vrai, hein, c'est même pas
c'est
une blague. Hein.
Ouais. Mais oui.
Tu regardes quoi comme bateau ?
Et je regarde le Blue Star 2, qui est le bateau pour aller à Patmos en Grèce.
Ah, trop mignon !
Et on les suit tout le temps. Et parce qu'en gros, je vais en Grèce quasi tous les ans, sur une petite île qui est à 8 heures de bateau à peu près d'Athènes. Et on est toujours avec notre capitaine et tout. Et il regarde, parce qu'évidemment, parfois les bateaux sont en retard et tout. Il regarde, il fait ah, le bateau il est à Léros, il va avoir 1h30 de retard. Et nous on fait non, il y a marqué sur le ticket sur le billet du bateau qu'il est à minuit, on va être à minuit au port. Hein. Et il fait non, faites-moi confiance, il a 1 heure de retard et tout, je le vois sur la carte. Et du coup on attend pendant 1h30 comme des connards, puisqu'évidemment qu'il vit depuis 30 ans là-bas, donc oui, il sait voir qu'un bateau va être en retard. Quoi. Voilà, donc Marine Traffic, moi j'ai.
Ouais,
voilà.
C'est ça, ouais. Voilà, ship tracker, enfin il y en a plein, mais et du coup c'était notre activité quotidienne au début. Donc au bout d'un moment, au début il était juste le conteneur en lui-même était juste pas chargé sur un bateau et okay. Il attendait je sais plus où vers le canal de Suez. Et donc du coup on attendait, puis ils nous ont dit bon finalement ça va être encore décalé d'une semaine, alors qu'on avait déjà fait notre quarantaine en France, on était prêt à prendre l'avion et tout. Et donc là on s'est dit bon tant pis, on prend quand même l'avion et on va attendre le bateau à La Réunion. C'est quand même cool comme endroit. Ouais, on s'est
mieux,
dit bon
coup, voilà. Oui.
Et donc on s'est retrouvé avec tous les autres scientifiques et on attendait le bateau. Et là voilà, Marine Tracker tous les jours, on regardait quand est-ce qu'il arrivait. Donc il n'arrivait pas. Finalement on a eu l'autorisation de monter sur le bateau après notre quarantaine, donc le bateau à quai. Là on attendait toujours le conteneur et la météo nous dit la météo nous dit pas directement, mais je veux dire on regarde sur la météo et on voit qu'il y a une prédiction pour un cyclone, donc une tempête tropicale qui arrive. Et
Non, pardon, je connais déjà l'histoire, donc je suis trop curieux. Parce que en fait j'ai découvert un truc de ouf, c'est que les bateaux, devine où tu dois les mettre, Marie, quand il y a un cyclone qui arrive.
Où les mettre ?
Ouais.
À un port, à un endroit ?
Eh ben non.
Ok, dans la mer ?
Ouais. C'est en fait, les gros bateaux, comme là, le Marion Dufresne, c'est un bateau qui fait plus de 100 mètres de long, ils sont trop lourds et ils risquent d'arracher leurs amarres et donc de faire toute une catastrophe dans le port. Et donc, du coup, on nous a dit, définitivement, le cyclone arrive pile sur vous, enfin, pile sur nous, c'est parti, vous partez en mer. Donc on est parti en mer dans la queue du cyclone. Donc j'ai été bien malade, mais en fait tout le bateau a été quand même sacrément malade parce que.
Ah oui, c'est pas parce que c'était la première fois quoi. C'était.
Alors probablement que si pour moi, mais il y a même des gens qui étaient d'habitude assez résistants et là ils nous ont dit normalement c'est progressif, on part sur une mer qui est limpide à La Réunion, c'est super calme. Et finalement là on est parti, on avait déjà des vagues de 6 mètres de haut alors que normalement on les a beaucoup plus bas. Et donc ça a un peu secoué et on a un peu vomi. Mais comme je disais, au bout de, enfin moi j'ai vomi qu'une seule fois déjà. Donc,
ah ouais, déjà.
Hein. Et
6 mètres de haut.
6 mètres de haut.
Je suis en panique.
T'avais peur ou tu
non, tu t'avais. En vrai, le bateau il est tellement gros que tu t'en aperçois pas vraiment. Si tu t'aperçois qu'il y a des grandes vagues, ça secoue mais ça fait pas peur.
Est-ce que tu peux donner la taille du bateau pour qu'on se rende compte un peu?
Alors je crois qu'il fait 120 mètres de long.
Oui.
Et il y a sept étages, on n'appelle pas ça des étages.
Oui, on appelle ça des ponts.
Des ponts, voilà.
Oui, j'ai mes notes.
Depuis la cale jusqu'en haut. Donc,
c'est quand même un beau bébé.
Un beau
ouais.
Truc, ouais.
Et il y a une table de ping-pong et tout à l'intérieur. Voilà.
Il y a un baby-foot.
Ah, il y a un baby-foot, j'ai pas vu.
Il y a un tournoi de baby-foot quand même.
Ouais, donc alors là, vous êtes en train, ouais, vous esquivez le cyclone et vous n'avez pas encore votre porte-container.
C'est ça.
Et donc là, tu découvres un peu la vie en bateau. C'est à ce moment-là que tu découvres la vie en bateau, quoi. Alors, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ?
Alors, oui, bah écoute, ça secoue. Non, en fait, c'est hyper réglé. On a des appels à la bouffe.
Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs ?
Alors. Pour le coup, c'est un très beau bateau, donc on est servi, on a des bons petits repas.
Ouais, ils font quoi faire.
Entrée, plat, dessert. entrée, plat, dessert, midi et soir. Quoi. Donc, okay. Non, t'as un appel, c'est vraiment un appel par les haut-parleurs qui dit... alors attends, comment
à
il disait
exactement ?
Mesdames, messieurs, service du déjeuner. Bon appétit. Mesdames, messieurs, service du déjeuner. Bon appétit. Et mesdames, messieurs, service du dîner. Bon appétit.
Ça doit manquer au bout de 40 jours c'est après, quand t'as plus
c'est ça.
Je sais pas quand je dois manger, personne me dit. Je bouffe pas,
je suis revenue chez moi, j'étais là. Bon, service du déjeuner, bon appétit. Et donc, tu y vas. Et puis, si tu sais que tu peux pas y aller, parce que, par exemple, t'es en train de surveiller des instruments scientifiques, du coup, tu dois notifier que tu veux qu'on te mette de côté. Et puis, après, il y a toujours à bouffer tout le temps. En vrai, parce que y a plein de chercheurs qui travaillent toute la nuit, donc il y a un plateau de fromage à disposition.
Très bien. Ah, vous avez testé le chalut aussi ?
Oui, alors on a profité du fait de partir une semaine en mer sans avoir rien de prévu pour quand même relever une bouée dont on va parler peut-être.
Ah ouais.
Donc pour et tester des tas d'instruments qu'on avait déjà un petit peu testés en quarantaine. Et donc le chalut, c'est un espèce de gros filet qui commence très très gros et puis qui finit tout petit. Et ce qu'on remonte, donc c'est dans la partie toute petite, c'est ce qui a bien voulu rentrer dans la grande bouche du filet. Et c'est les organismes que les chercheurs à bord regardaient. Et il y a des trucs de ouf.
Tellement chelou. Il y a des... enfin, c'est alien mais transparent. Il n'y a que des trucs vraiment... Parfois c'est microscopique. À un moment, il y a un truc, ça ressemble à... Enfin, c'est à la taille d'une grande main. C'est transparent. Je sais plus. Un salpe, non, c'est quoi ?
Ouais.
C'est... je sais pas, c'est des trucs.
C'est un organisme gélatineux qui vit. Et plus on descendait, donc on est parti des eaux chaudes vers les eaux froides, et plus on est allé vers les eaux froides, plus on avait des trucs un peu énormes et avec des formes de plus en plus cheloues.
Ouais, vraiment,
c'est magnifique. Et j'ai découvert les larves de langoustes. C'est trop magnifique, c'est tout
mignon.
Plat. C'est une espèce de petite feuille transparente, justement pour pas être perçu en fait par les prédateurs. Et c'est une espèce de grosse, c'est comme un chips, mais transparent. Et
un chips ou une chips ?
Une chips. Ah oui, c'est vrai, on dit une chips.
American, ok. A ship. bon, et alors.
Des petites chips transparentes sont des larves de langoustes.
Avec des antennes et des petites pattes quand même, et des yeux au bout des antennes, quoi. C'est très étrange.
C'est fou, c'est vraiment fou. Donc tu suivais tous les gens qui faisaient des choses,
mm-hmm.
et parfois tu t'ennuyais, tu t'avais prévu des trucs, comme, enfin je sais pas, c'est comme si c'est la première fois que tu partais si loin. Est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers auxquels tu t'attendais pas, ou des trucs un peu surprenants
Ouais, alors j'avais pris plein de bouquins et tout ça, j'ai pas ouvert un seul bouquin, je sais pas du tout le temps. Ouais, j'ai un peu oublié de dormir à un moment parce que justement il y avait quand même trois équipes de scientifiques, et donc moi je suis partie avec un cadreur, Sylvain, et en fait au début je voulais tout suivre, tout voir, et j'ai pas au bout d'un moment mon corps m'a rappelé qu'il fallait dormir, qu'il fallait se reposer des fois, et c'était un peu dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, mais en même temps c'était un peu bête de ma part puisque trois équipes qui se relaient versus une personne qui suit tout le monde. J'aurais dû m'en douter. Et sinon, ouais, moi, vraiment, le truc le plus impressionnant, c'était la disparition du mal de mer. Je pense que dans les deux premiers jours, tu m'aurais dit, t'inquiète, dans deux semaines, tu verras même pas qu'il y a une vague qui arrive, il y aura juste toute ta table qui s'en va, et tu vas dire, ah oui, c'est vrai que ça bouge encore. J'aurais jamais cru. Alors qu'en fait, c'était vrai. Au bout de deux semaines, je travaillais sur mon ordi, alors que j'ai le mal des transports. Par ailleurs, là, je monte dans une voiture, je suis malade.
T'es en train de me dire que n'importe qui pourrait aller sur ISS dans l'espace et ça marcherait ? Faut pas se préparer, tu les mets là-haut. Et
bon, ça doit tout à fait la même sensation.
Dans tous les cas, vous irez mieux dans quelques jours. Voilà.
C'est possible, hein. Mais franchement, je pense qu'on a une adaptation...
Fait, ce réchauffement climatique, ça va aller.
Yes.
Voilà.
On prendra des petits éventails et let's go. Ça va, on peut plus rire.
Ah là là, t'as quand même testé un truc aussi incroyable. T'as goûté de l'eau qui venait de 4800 mètres de profondeur. Vous avez mis un machin dans l'eau.
Une rosette. Une rosette et ça n'est pas un saucisson.
C'est, oui.
C'est des bouteilles accrochées les unes, enfin accrochées à une structure et qu'on peut ouvrir indépendamment. Donc, des espèces de grosses bouteilles qui se remplissent d'eau. Et donc on les plonge et on peut aller à la profondeur on veut et enfermer, ouvrir, donc faire des prélèvements en fait à des profondeurs différentes. Et là, donc quand on est allé au point le plus au sud de notre périple, à 1000 km de l'Antarctique, j'étais un peu déçue, on n'a pas vu l'Antarctique, on n'a pas vu de...
Ah ouais, ah, tu ne voyais pas de...
Non, on ne le voyait pas, ah là c'est là. Trop loin. Et on n'a pas vu d'iceberg aussi, alors que...
Mais t'avais froid quand même.
Une semaine avant, ouais, ça pelait un peu. Bah, il faisait plus chaud, enfin à peu près aussi chaud dans l'eau qu'à l'extérieur, donc 1 degré. Quand on était au point le plus au sud de notre périple, au niveau de l'Antarctique, là, on a plongé ce gros machin, donc cette rosette qui est descendue jusqu'à 4800 mètres. On a récupéré de l'eau à cet endroit-là. Et comme un peu plus tard, il y avait du rab, on s'est permis de... Enfin, il y a un des doctorants qui était là qui m'a proposé de goûter. Et bah, c'est salé.
Il n'y a rien d'exceptionnel.
Alors, de la mer.
J'étais étonnée parce que justement, ça n'a pas trop le goût de la mer. Tu as un petit goût de vase aussi quand tu es en surface. Yes. Enfin, quand tu te baignes, tu vois, tu as un peu d'autres goûts. Alors que là, c'est vraiment le goût de... l'eau d'une eau minérale mais avec beaucoup de sel quoi. C'est pas très bon mais par contre tu fais des glaçons avec ça et tu le mets dans du jus de tomate avec ou sans alcool et ben c'est très bon.
Mais alors comment sublimer un Bloody Mary?
Exactement.
Tout bêtement en prenant de l'eau de 4000...
L'eau tu la revends hyper cher et tout.
Tu vois, chacun son. Ouais, moi, je suis plus recette, il est plus
business.
Bon, raconte-nous la fin de cette rosette parce que bon, elle a une petite histoire celle-ci quand même.
Oui. Alors, bah, c'est un des derniers. C'est pas le dernier, la dernière poisse qu'on a eue, mais presque. Donc, on était bien heureusement vers la fin du périple. Donc, on avait pu faire plein de prélèvements et un soir, une nuit. Soir, peut-être une nuit, près d'un lac. Bref, donc.
Barbara.
Le papa pingouin.
Et donc, on envoie la rosette. Pareil, je crois que c'était à 4008 qu'on l'a envoyé.
Dis donc, ce serait pas la distance du Mont Blanc à l'envers?
Mais oui.
Bah oui,
mais...
c'est dans ta vidéo.
En fait, il s'est fait mais... tout.
Mais c'est assez fou quand tu penses.
Ouais. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est exact. Oui, c'est pour ça que j'ai noté. Parce que c'est la distance. De comme ouais, c'est ça, du Mont Blanc en bas quoi. Putain.
Quand tu réalises ça, que ça fait un petit coup quand même, tu te dis là au-dessous de moi, il y a l'équivalent du Mont Blanc en profondeur et je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Voilà. Et en distance, on est à 3000 km de partout de toute terre habitée. Il faut pas trop être
pas un peu claustro tout ça, enfin,
l'inverse
un peu
de claustro,
l'inverse de claustro.
Ouais. Et donc on l'envoie dans l'eau.
Cette rosette.
Non mais ce qui veut dire qu'il y a un câble Marie
qui fait la taille
du Mont Blanc. Fait la longueur du Mont Blanc. C'est là tout le problème. Ah. C'est que il faut que le câble tienne. Et en l'occurrence le câble a pété.
Et donc la rosette
est tombée. Et en plus, on s'en est pas aperçu tout de suite. Enfin, au début, on s'est aperçu qu'il y avait pas de lien. On recevait plus d'informations de ce qui se passait en dessous. Et après, il faut remonter le câble. Donc, c'est hyper long en fait de remonter 4800 mètres de câble, de réenrouler 4800 mètres de câble. Et c'est que quand ils sont arrivés à une distance où on était censé voir la rosette, qu'ils sont aperçus qu'il n'y avait rien au bout du câble. Et voilà.
Là, c'est grosse déprime sur le bateau, non?
Ah ouais, gros choc. En fait, ça s'est passé dans la nuit.
Ouais.
Donc même moi, alors j'avais ma cabine était vraiment au-dessus du câble. Donc j'ai entendu, j'étais partie me coucher parce qu'on m'a dit bon bah de toute façon il se passe rien, va te coucher machin. Donc je vais me coucher. J'ai vraiment regretté. Je savais qu'il s'était passé un truc, mais ils étaient persuadés que c'était électronique. Et effectivement, j'ai entendu en me couchant des voix en bas et tout. Et le lendemain. Je me suis levée comme les autres et il n'y avait pas la rosette, quoi. L'instrument n'était pas là. Et il y en a vraiment qui étaient déjà un peu déprimés de façon générale, un peu hallucinés que ça puisse arriver, parce que c'était, je crois que c'est arrivé qu'une seule fois de l'histoire
des rosettes. Alors qu'ils font tous les ans, quoi. Depuis combien de temps ça se fait depuis combien de temps?
Ces trucs-là, je pense, ça a été inventé dans les années 80, un truc comme
ah
ça.
Ah ouais, donc c'est vraiment la loose, quoi.
Et ouais, c'est vraiment la loose, puis ça coûte hyper cher.
Ben, j'imagine, ouais. Il n'y a pas un système, genre t'appuies sur un bouton et il y a une petite bouée qui se gonfle ou un truc comme ça? Non, ça marche pas, ça.
C'est 4000.
Non, bah, ça pourrait.
Je sais pas, c'est des scientifiques qui peuvent, je sais pas, réfléchir à des trucs, quoi.
Bah, c'est-à-dire que ça arrive tellement pas souvent que je pense que c'est pas un système de sécurité auquel ils ont pensé. Ouais.
Parce que les câbles, ils sont costauds, hein.
Ouais.
Et ça peut être dû à quoi, alors?
Bah, probablement le câble était abîmé, corrodé. Il y a peu de chances que ce soit un monstre marin qui est mangé. Mais on sait pas.
On sait pas, c'est trop bas.
C'est peut-être ces fameuses chips.
C'est le Yeti aquatique.
C'est ça, le Yeti des mers.
Par rapport au Mont Blanc.
Bah, oui,
je l'ai.
Tu l'avais pas, tu vois. C'est compliqué. Moi, j'ai un autre truc qui m'a fasciné dans ce voyage. Et vous faites des trucs chelous avec des lettres à un moment sur le bateau.
Du Scrabble.
Ah.
Non, mais c'est fou ça.
des lettres, des enveloppes, des trucs de poste, tu veux dire.
Exactement, ouais. des lettres à la poste.
Pas ABCD, tout ça.
Non. Ah non, bah aussi, sûrement, il y a des chiffres aussi. Mais j'ai vu, vous tamponniez. À un moment, vous vous approchez des îles de Kerguelen, c'est ça?
C'est ça.
Oh, putain, j'ai bien bossé. Et vous vous mettez à tamponner des enveloppes, là. Qu'est-ce que vous faites, là?
Alors, en fait, on passe dans les îles australes françaises, qui sont donc des territoires qui font partie de la France, et dans lesquels il y a un service de poste. Donc, c'est le Marion Dufresne qui passe de toute façon dans ces îles, qui s'occupe de faire le service de poste, de transporter en tout cas la poste. Et comme sur certains bateaux, tu peux avoir un tampon posté à bord. Et c'est de coutume que sur les bateaux scientifiques, il y ait à la fois posté à bord et le tampon de chacune des équipes scientifiques et chacune des personnes qui peut avoir un tampon. Je pouvais même avoir un tampon, j'ai pas eu le temps d'imaginer un truc spécial, mais...
Ah, oh, c'est dommage.
En gros, tu peux te faire un tampon si t'as une fonction à bord du bateau. La touriste à bord du bateau.
Ah, ouais,
et donc, t'as tout le monde qui se met autour de la table, et puis là, t'as le capitaine qui a son tampon, le second, le lieutenant, le médecin, et puis après, chacune des équipes scientifiques, et puis le tampon posté à bord, enfin voilà. Et donc, tu as tout le monde qui est là en train de tamponner et ça prend longtemps parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça, qui adorent, c'est comme de la philatélie, mais ça s'appelle, je ne me rappelle plus là...
La marcophilie.
La marcophilie. Et donc, du coup, tu peux, si tu veux, envoyer à une personne qui sera à bord, donc souvent, c'est le capitaine qui reçoit tout ça, une enveloppe avec la future enveloppe que tu veux faire tamponner. Tu peux y mettre des sous pour lui dire merci aussi. Et les timbres qu'il faut pour... c'est des timbres particuliers sur les terres australes. Et donc, c'est des timbres que tu peux acheter sur Internet. Donc, tu mets tes timbres sur ta petite enveloppe, tu la mets dans une plus grande enveloppe, tu l'envoies ou tu la donnes au capitaine ou à quelqu'un qui sera à bord. Et là, donc, à l'approche des îles, on se retrouve avec deux cartons de lettres à tamponner.
C'est pas de tout repos, hein.
Ouais. Et moi, j'avais eu la bonne idée. Donc, je savais que la marcophilie, ça existait et que c'était un truc un peu cool. Et donc, avant de partir, j'avais sur YouTube, j'avais dit, si vous voulez une lettre, j'ai mis en vente des lettres et que j'ai écrites et que j'ai envoyées du coup aux personnes qui avaient. Et heureusement, j'en avais mis que 30 parce qu'en vrai, c'est beaucoup. ça fait pas mal.
Eh ben,
tu savais ça?
Bah non.
Bah, c'est fou, hein.
Voilà. Et donc, en plus, quand t'arrives sur l'île, tu descends, donc tu donnes le gros sac de lettres.
Ouais.
Ils vont, les lettres vont jusque à l'endroit de l'île où il y a le gars responsable des postes.
Mmh.
Il les retamponne toutes avec l'aide d'autres gens qui sont sur l'île. Et on repart avec le sac. Il y a juste un tampon en plus pour dire ça a été oblitéré. Le tampon de la poste faisant foi, il vient de cette île-là.
Il y a un truc que t'as pas le droit de dire aussi sur le bateau, mais bon. Ça, c'est peut-être classique, ça.
Ouais,
ça coule.
Ouais. Oui, ça fait peur aux gens. Mais...
Non, il y a un animal dont tu dois pas parler sur les bateaux.
Okay.
Et oui, ça date de il y a hyper longtemps, depuis l'invention des bateaux, j'ai l'impression.
Pas mettre de verre au théâtre comme ça, ouais, c'est la superstition.
C'est C'est la superstition. Donc c'est ce... le... bah, je peux le dire.
Celui qui a les oreilles, là, derrière.
C'est pas le lièvre, c'est l'autre avec les oreilles.
Mais on n'est pas sur un bateau, là, on peut le dire.
Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, c'est le lapin.
On est en train de voyager sur le bateau. Tout à l'heure, j'ai dit, on met les doudounes et tout, là, Marie.
Ouais, si on... tu sais que j'ai fait deux jours de bateau cet été, j'ai tangué pendant deux semaines. Je suis, c'est trop bizarre, je tangue.
Alors, ouais, non, mais c'est impressionnant. Ça me fait penser à un truc. À un moment, vous prenez des vagues. Et le bateau, tu sais, tu... Enfin, je me lève et...
Alors, moi, je te fais, attends, l'audio, je te fais le guide. Oh, ah oui, d'accord.
Tu vois le truc qui fait Michael Jackson dans Smooth Criminal ?
Voilà.
Et bah là, tu le fais trop facile.
Maxime...
Te plier près du... Mettre ton nez près du sol.
Ouais.
Et revenir sur tes pieds, c'est hallucinant, ça. Non ?
Et ouais, carrément. Et en plus, là, c'était pas les plus grosses vagues qu'ils ont vécues sur ce bateau.
Ah ouais ?
Ils nous ont dit, c'est... ça va. C'est normal.
Je voyais tous les, comment dire, les tiroirs qui se bougeaient, qui se remettaient, les gens ils s'accrochaient et genre ils vivaient un peu comme ça. Ça les dérangeait pas, mais ça faisait pas peur, ça.
Non, non, carrément, c'est tu t'habitues vraiment.
Ah ouais.
Et juste le seul truc qui est pas accroché en général, parce que sur les tables tu mets un espèce de plastique un peu collant et du coup tu mets ton ordi, il bouge pas, tu mets mettre un verre,
malin.
Tout ça. Le seul truc qui est pas accroché, c'est la chaise. Donc en fait, t'es tranquille en train de travailler et d'un coup, tu glisses sur un côté de la table. Là, tu dis, ah oui, il y avait une vague là.
Ah.
Et sinon, tout le reste est à peu près bien. À table, c'est assez marrant parce que du coup, on est tous là en même temps, tous à table et on a toutes les chaises qui partent en même temps. Ça, c'est drôle. Mais c'est moins drôle pour les gens en cuisine, je pense.
Vous deviez à un moment récupérer des bouées qui étaient immergées.
Ouais.
Et il y en a une que vous avez qui était un peu qui voulait pas monter, c'est ça?
C'est ça, oui.
Oh putain, c'est ouf ça. Ça c'est ouf.
En gros, il y a des balises qui sont mises un peu partout dans l'océan Indien et dans l'océan polaire qui enregistrent les sons de l'océan. Elles sont immergées à, enfin en gros, elles flottent entre deux eaux à 1200 mètres de profondeur, mais le lest, donc ce qui les maintient au sol, il est sur le sol, donc bah quand c'est à 4800 mètres, donc c'est très profond. Des fois, c'est un peu moins profond. Et au niveau du lest, il y a un espèce de déclencheur auquel t'envoies un signal et qui fait remonter la bouée. Donc, il ouvre l'anneau et la bouée remonte et tu peux récupérer tous tes instruments qui sont dans la bouée, qui sont des enregistreurs de sons. Sons qu'on peut pas entendre avec nos oreilles, mais qu'on peut accélérer pour les entendre quand même. Et donc, tu récupères ça facilement, normalement. Enfin, il faut juste être au niveau du bateau, puis tout le monde guette à l'horizon, et c'est une espèce de grosse bouée orange. Et t'as tout le monde sur le pont qui est là, « Ah, je l'ai vu, je l'ai trouvé !» Et des fois, bah, en fait, ça remonte pas. Donc, le signal de relargage de la bouée ne remonte pas, ne n'est pas donné. Donc du coup, ils se disent, bon, bah, les scientifiques se disent, ouais, en fait, il est resté coincé. Donc bah, on essaye, ça marche pas. Et là, on a mis 16 ou 18 heures à arriver à récupérer cette bouée. Il a fallu laisser tomber un grappin, faire le tour de l'endroit où on pensait où était à peu près le lest. Donc du coup, tu fais tout le tour comme ça, un espèce de tour à peu près de la bouée, donc en te repérant par GPS. Puis ensuite, tu tires et voilà, bah, tu espères que tu vas arriver à accrocher autour de l'anneau où est accrochée la bouée et tu tires jusqu'à ce que ça lâche et tu casses en fait là où elle est retenue.
J'ai trouvé ça fou, quoi. Okay,
tu sais,
genre le bateau, il fait vraiment un tour, mais vraiment très très grand dans la mer. Et j'ai dit, mais la mission pour récupérer un micro truc, et ils ont réussi.
Ouais, heureusement.
C'est ouf.
Parce que en vrai, ça fait ces trucs-là, ils les retirent normalement tous les ans, mais là, il y avait eu le Covid, donc du coup, ça faisait deux ans qu'ils n'étaient pas allés, et ils étaient trop contents d'avoir récupéré. Et du coup, ils ont leurs sons, à la fois des sons du sol, donc par exemple les séismes, c'est un peu ça qu'ils les avaient mis à la base, les enregistreurs, et en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient aussi les sons des baleines dans les mêmes tranches de sons.
Ou un truc comme ça, non?
Ouais. Selon... Et du coup... ouais, en fait, on les entend pas, nous, mais on peut les accélérer et c'est oui, magnifique. C'est un...
Ouais, c'est trop...
On peut faire du playback de son.
Non, il y a un autre truc qui est ouf, c'est que c'est le bruit des icebergs qui se craquent, un truc comme ça, qui se touchent, non ça?
Et ils sont aperçus, il y avait un autre bruit qu'ils s'attendaient pas à entendre et qu'ils ont mis longtemps à comprendre. C'est un espèce de grincement, mais c'est un hurlement déchirant quand tu l'accélères pour que ce soit audible. Et que t'écoutes ça, mais en fait, c'est des icebergs qui se détachent de la banquise Et donc ça crisse de les trucs les uns contre les autres. Et en fait, t'as vraiment... c'est le cri des icebergs, quoi. C'est genre, ils pleurent parce qu'ils s'en vont. Et plus la banquise fond, plus t'as ces bruits sympathiques. Ouais. Plus sa gueule, voilà.
Sa gueule, les icebergs.
Ah, bon, allez, j'ai envie d'enlever mon manteau, là.
Attends, j'ai juste un mini truc. Merde, non, c'est même pas une question, mais c'est une petite reco pour les gens qui aiment bien les sons. Il y a des vidéos sur YouTube de mecs ou de meufs qui font du ice skate. Ça, c'est comment en français ?
Du patinage.
Du patinage, super. Sur des lacs complètement gelés et tout. Et ça fait un bruit de fou. Les petits craquements, le petit bruit des patins, en fait, ça fait des... Je sais pas le faire, mais c'est trop stylé. Genre, ça résonne dans tout le truc et tout. Parce que ça me faisait penser à les cris des icebergs, les bruits des baleines.
Tu m'enverras le petit lien, peut-être j'en mettrai un comme ça.
Ah ouais, c'est trop stylé. C'est très satisfaisant.
Est-ce que t'as une autre aventure là, que tu pourrais nous emmener ?
Il y a un voyage qui m'a énormément marqué, c'était au Cap-Vert. J'avais pris des billets pour y aller, je sais plus, c'était genre en février ou un truc comme ça. Et en décembre... il y a un des volcans qui s'est réveillé et qui a... Donc le Cap-Vert, c'est un ensemble, un archipel d'une dizaine d'îles. Et il y a une île où il y a un volcan qui est encore actif. Et donc le volcan s'est réveillé et en fait, il a commencé tout doucement par faire une petite coulée. Donc on s'est dit, ah, trop cool, on va voir commencer et tout ça. Et en fait, d'un coup, genre quelques semaines plus tard, ça s'est accéléré. Et quand on est arrivé, nous, les deux villages qui étaient dans la caldeira, donc c'est l'intérieur du volcan, ils avaient été totalement détruits. Et c'était assez ouf. Donc c'était interdit d'y accéder. Moi, j'avais eu un contact par une collègue de la plongée. Enfin bref. Et
t'avais donné un petit dossier.
Et non, mais il se trouve que elle sortait avec un mec qui était guide. Ils avaient construit une pension donc dans la caldeira. Donc pour alors la caldeira, c'est en gros quand t'as un gros volcan qui s'effondre. C'est l'intérieur du cratère, mais effondré. Donc c'est un endroit qui normalement est... Bah non, il n'est pas toujours safe, mais qui est assez spécial et entouré. Bah, tu as les parois du volcan d'un côté,
ouais.
Donc sur l'île Fogo, là, je parle. Donc tu as les parois d'un côté du volcan qui sont jusqu'à genre 3000 mètres et le bas, il est à 2000 mètres. Okay. En gros, t'as des espèces de grands murs d'un côté et de l'autre côté, bah, ça descend en pente douce jusqu'à la mer. C'était interdit d'y aller là-bas parce que le gouvernement disait que c'était pas... safe. Et parce que bah oui, effectivement la lave était en certains endroits encore un peu tiède, donc c'était pas vraiment dangereux. Et donc ils y allaient en 4x4 parce qu'il y avait des gens qui un mois après la fin de la coulée avaient déjà commencé à reconstruire. Et il y avait une maison qui était restée debout parce qu'elle était sur un petit monticule et le gars hébergeait les gens qui voulaient venir et voilà. Et c'est un endroit où ils font du vin. Ils font, en fait, le sol est hyper riche et ils font du vin, ils font des fruits, etc. Et donc c'est un endroit qui était trop cool. Et quand on est arrivé, c'était en fait un désert noir. Et le couple qui nous avait invités, quoi, qui nous avait hébergés, ils nous ont amenés sur ce qui était leur pension qui venait de faire de construire. Et ils avaient à peine fait une saison. Et en fait, on a marché sur le toit. Que la lave était rentrée par l'intérieur et était ressortie par le toit terrasse. Et donc, tu avais comme ça, et tu passais, tu devinais qu'il y avait une maison, mais c'était vraiment un champ noir. C'était assez fou, quoi. Et tu voyais les traces du fluide noir qui ouais. coulait partout. C'était assez fou.
Oh, incroyable.
Et ça, c'était pas prévu que le volcan rentre en éruption quand t'étais au Cap-Vert.
Non, non, mais c'était quoi ? Non, pas du tout. Ouais.
C'est un peu, enfin, c'est ce que tu fais, non, de checker les sols.
Non, en vrai, j'aime beaucoup les volcans. En plus,
ouais, parce que t'es allé aussi, j'ai vu une vidéo à
Lanzarote.
À Lanzarote. Ouais, ouais. Pareil, t'as étudié ça un peu là-bas.
Donc ouais, les Canaries, du coup, c'est pareil. Il y a une éruption qui est vraiment cool, qui a marqué l'agriculture là-bas, puisque justement, comme au Cap-Vert, ils ont réussi à utiliser les petites cendres, les lapillis, pour enrichir les sols et pour maintenir l'humidité. C'est des endroits qui sont très très chauds et normalement, tu peux rien faire dessus. Et comme ces pierres volcaniques, elles absorbent l'humidité matinale de la rosée. Mmh. Et ça maintient, et ça permet de faire quand même pousser des trucs. Donc c'est vraiment cool. Et c'est assez fou qu'un truc aussi destructeur, finalement, apporte aussi de quoi faire pousser la vie.
C'est beau. Voilà. C'est beau. Des petits champignons, qu'est-ce qui pousse là-bas? Si tu mets de l'eau de moins 1400 mètres... Sur un volcan. Ouais, je sais pas, moi je suis sûr.
Ça fait pshhh.
Ouais, je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui ont inventé des trucs en faisant comme moi. Mais. Ok, j'ai. Bref. Est-ce que t'as une anecdote folle que tu raconterais? Là, t'es dans une auberge de jeunesse. T'es sur un bateau avec que des touristes scientifiques et tu dois raconter la best anecdote. Est-ce que t'en as
mais
une?
Il m'est pas arrivé beaucoup de choses que j'ai pas cherchées. Enfin si, j'ai quand même vécu 3 tremblements de terre dans 3 pays différents.
Mais non.
Si. Mais c'est
en fait t'as la place tout le temps quand.
Alors oui.
Mais il faut pas que les gens ils t'invitent sur leur bateau en fait. C'est toi, le problème.
En vrai, on en a parlé après avec les scientifiques. Ouais,
le Titanic,
il y a
peut-être un petit.
Dans quel pays les trois
En Italie, mais c'est la région du nord-est de l'Italie. Il y a quand même beaucoup de tremblements de terre vers là-bas. Donc c'était 4,8, ce qui est pas énorme pour là-bas, mais c'est sympathique. Ça te réveille bien dans la nuit quand même. En Suisse. À Zurich, de façon assez improbable, ça bouge pas beaucoup là-bas pourtant. Pareil, c'était la nuit aussi, ça m'a réveillée. Mais j'ai su reconnaître que c'est un tremblement de terre. Et le premier que j'ai vécu, c'était en Nouvelle-Zélande. Bon, là aussi, ça bouge beaucoup. Et c'était juste avant le gros tremblement de terre qui a ruiné Christchurch dans l'île sud. Et moi, c'était le gros tremblement de terre, c'est le jour où je repartais en France. J'étais là-bas pendant 6 mois.
Ah, donc un peu de chance quand même.
Ouais, donc quand même de la chance.
Mais je rappelle que ton doctorat, c'est projection des structures conjectives.
Non, c'est prédiction des structures convectives.
Convectives.
Attends, ton doctorat, c'est quoi déjà?
Prédiction des structures convectives dans le manteau terrestre.
Et c'est un peu... bon, j'ai pas compris, mais c'est un truc, c'est genre la Terre qui bouge ou pas du tout?
Oui, en fait, c'est les mouvements de masse, de grosses masses chaudes et froides de roches qui sont à l'intérieur de la Terre dans les 3000 premiers kilomètres. Donc c'est bien loin de nous, mais c'est à l'origine des mouvements des plaques. Et les mouvements des plaques, oui, c'est relié au tremblement de terre.
Donc c'est quand même ouf que par hasard, tu tapes des séismes alors que...
J'ai visité Fukushima 2 mois avant le tremblement de terre. La centrale... Pareil, c'était le hasard. J'étais en
Maxime,
école d'été.
Scotch, tout ce que
ouais, tu as fait. Ouais, c'est clair. Il n'est pas antisismique, mon immeuble, quoi. ouais. C'est très curieux ça,
Ouais. Voilà.
Ouais, c'est écoute, chance, hein. Marie te dira que c'est parce que t'es poisson ou verseau, mais.
Alors je suis poisson pour le
coup. Ah bah
coup.
C'est vrai, tu vois.
Mais moi, comme je suis bélier, il m'arrive rien.
Bah voilà.
On parle peut-être de. Enfin, je sais pas si t'avais une anecdote en particulier ou c'était.
Si, j'en avais une, mais bon, si c'est.
Enfin, bah ouais, ouais.
Fait, ah non, vas-y. Ouais, ouais. Allez, petite anecdote.
Je suis allée avec des collègues scientifiques. On était en vacances après un congrès sur Météor Crater. Je sais pas si tu vois, c'est en Arizona. Il y a un cratère au milieu du désert et tu peux y accéder pour le visiter. Et on y est retourné la nuit. On est accédé au truc par de l'autre côté des barrières.
Illégalement?
Non. Ah. Pour essayer de trouver des...
énorme émetteur cratère, waouh.
Oui, c'est assez grand. Ça fait 1 kilomètre de diamètre, je crois, un truc comme ça. Okay. On essayait de trouver des météorites.
Ok.
Voilà. Bon, de nuit, c'est moins efficace.
Ah
mais
oui,
on a quand même regardé les cailloux et voilà. Et on s'est pas fait embêter. Il y a une voiture qui est passée, mais en fait, ils faisaient le chemin de ronde était plus loin que là où on était. Et on est vraiment allé jusqu'au bord du cratère.
Et normalement,
et on
t'as
a
pas
pris
le droit
des méga photos.
Bah... Ah oui, parce qu'il y a un endroit. Oh là là, c'est
ouais,
ouf.
T'as un endroit où
Maxime
tu peux...
est en train de regarder en même temps pour information.
Donc t'as un endroit où tu peux accéder avec un visitor center et voilà, t'as pas le droit de descendre dans le cratère. Enfin, avant tu pouvais, mais maintenant je crois qu'ils le font plus. Et voilà. Donc nous, on a fait tout le tour en voiture, on est allé avec, voilà, et après on a continué à pied et on a fait des photos sous les étoiles sur le bord du cratère. Voilà.
Oh, trop stylé.
Ça, c'est pas ouais. Bien. Moi, j'aurais été mal, hein, parce que les Américains, ils rigolent pas. Hein. Moi,
ah ouais, et puis toi, on le sait, Maxime, tu adores respecter.
je frotte
écoutez
pas, moi.
L'épisode avec Hit the Road.
ouais, non, mais attends.
Maxime, il avait chaud. Il avait chaud.
Vous vous êtes équipé comment pour faire ça? Est-ce que vous avez mis genre tout en noir et tout
Pas du tout.
Tu as mis des cagoules.
Non, en plus j'avais une doudoune genre vert fluo, donc rien à voir. Mais non, on avait toujours la carte de dire ah ben on est géologue, donc en fait voilà, on s'était dit ça, on s'était mis d'accord, on dit si jamais il nous arrive quelque chose, on explique ça. Bon, on sait jamais si ça peut aider. Mais...
N'hésitez pas à garder cette petite technique, les fraudeurs de Touristos Touristas. Ah oui, et donc ouais, pas de problème quoi.
Non, en fait non. Il y a eu une voiture de patrouille qui est passée, mais super loin, donc ils nous ont pas vus. Enfin, on avait éteint les lumières.
Mais c'est incroyable, hein. Et donc, alors, les astronautes de Apollo 11 sont venus s'entraîner.
Eh bah, merci pour ce fun fact.
C'est pas moi qui fais les quiz, heureusement. Alors, attends, juste deux choses. Est-ce que tu veux quand même nous donner, toi, ton sentiment sur l'histoire de, enfin, l'expérience dans la grotte où vous êtes allé dans une grotte quelques jours, coupé du monde et du temps. Enfin, vous n'avez pas de notion de temps. Enfin, est-ce que tu peux, enfin, c'est une expérience folle. Tu l'as fait avec Théo. Vous pouvez écouter son podcast, mais j'aimerais bien aussi ton retour à toi là-dessus, parce que c'est fou comme expérience, quoi.
Bah, j'imaginais pas qu'en 3 nuits on serait aussi décalé. Vraiment, on est sorti. Théo, vous le racontez. On est sorti, on pensait qu'il était 15h, un truc comme ça, ou 15-16h. Et en fait, il était 22h. Et j'ai découvert, donc on n'avait pas le droit à la montre, on n'avait pas le droit à tout truc qui pouvait nous indiquer l'heure. Et on avait aussi déréglé, quelqu'un nous avait déréglé nos heures sur nos systèmes d'enregistrement, donc les vidéos. Mais moi, j'ai fait des vidéos avant de me coucher et en me levant. Et donc du coup j'ai su combien j'avais dormi et c'est là que j'ai découvert que j'étais un gros loir. J'ai dormi entre 10 et 12 heures à chaque nuit. C'est comme ça que j'ai commencé à décaler. Ouais, alors que franchement je me réveille, je me suis réveillée en manifestement j'avais dormi déjà 10 heures et j'ai fait un passe-cam où je dis ouais là franchement j'ai l'impression qu'il est 4 heures du match, je sais pas du tout. Après Théo ronfle, donc du coup on avait très mal dormi, mais juste je n'imaginais pas du tout que je pouvais dormir autant. Donc manifestement voilà, si on ne me restreint pas par un réveil, je dors beaucoup. Et c'est aussi en tout cas ils ont fait des journées et des nuits plus longues, les gens qui sont restés 40 jours dans la grotte. Nous on est resté que 3 nuits, 4 jours, mais ouais. Apparemment, c'est commun de faire des cycles de plus que 24 heures.
C'est-à-dire, j'ai pas compris.
Bah, en gros, ils faisaient des journées plus longues et des nuits tout aussi équivalentes. D'accord, donc, du coup, ils avaient leur cycle jour-nuit faisait plus que 24 heures. Et donc, ils ont compté, quand on est allé sortir, ils pensaient pas du tout qu'on était à 40 jours, ils pensaient qu'on était à genre 30 jours.
Ok.
Ça veut dire que si on était sur une autre planète qui tournait plus doucement que la Terre autour du Soleil, eh ben ce serait plus le rythme humain.
Ouais.
Eh, y en a là-dedans. Hein. C'est vrai, c'est ça ?
Bah ouais, ça pourrait être ça.
Non, c'est juste que l'humain il s'habitue quoi.
Non, ouais. Marie.
Non mais je veux dire les pays où il y a pas de, tu sais, il y a la nuit tout le temps ou le jour tout le temps, ils se régulent, non ?
Je sais pas.
Bah, c'est vrai que sans la lumière, je crois que la lumière du jour ça nous impacte beaucoup sur le fait de se réveiller quoi.
Ouais.
Si tu vis tout le temps dans le noir, faudrait en fait la prochaine fois il faut que tu invites quelqu'un qui vit en Arctique.
Oh.
Voilà, comme ça tu poseras toutes ces questions.
Eh ben merci pour toutes ces aventures et franchement c'était incroyable, on n'avait jamais eu un truc comme ça dans Tourista Marie.
C'est clair.
Est-ce que dans ta bucket list il y a des choses que t'as pas encore fait, que tu rêves de faire, des dossiers que t'as envie de déposer auprès des chercheurs
L'Arctique.
Eh ben voilà.
Voilà. C'est dit. Ouais.
Ah ouais. Mais,
j'aimerais bien aller vraiment marcher sur la glace du pôle Nord, rencontrer des gens qui vivent là-bas, des Inuits, voir un peu comment ils vivent. Ça me paraît tellement fou.
Ouais. Et qu'est-ce que tu irais faire comme petite ils font quoi comme études scientifiques là-bas ?
Eh ben ils étudient le mouvement des glaces par exemple.
Ben voilà.
Et il y a des sociologues aussi qui étudient les sociétés inuites et comment elles perçoivent le changement climatique par exemple.
Trop intéressant.
Alors dernière chose que ça tombe à pic, on faisait des blagues il y a trois épisodes sur planter des arbres pour compenser l'avion et t'as fait une vidéo là-dessus dans Le Monde.
Oui.
Est-ce que tu peux nous débriefer ça en 2 secondes ? Ça marche bien ça ou pas ? Alors de planter des arbres pour
pas trop.
voilà.
Non, ça marche pas trop bien. Enfin, il vaut mieux pas les arracher les arbres que de les planter n'importe où, n'importe comment.
Okay, il vaut mieux pas prendre l'avion.
Et il vaut mieux surtout pas prendre l'avion. C'est exactement La conclusion de la vidéo, parce que du coup ça donne une excuse le fait de pouvoir compenser ses voyages alors qu'en vrai on devrait juste diminuer.
Vous pouvez voir la vidéo sur Le Monde si ça vous intéresse.
Eh ben merci beaucoup, c'était hyper intéressant Léa, vous pouvez vous pouvez vous abonner au compte Léa Bello sur Instagram, ta chaîne YouTube, et tu postes régulièrement voilà sur
Insta, Twitter en
Insta,
général.
Insta, Twitter. Bon, bah voilà, très bien. Merci de vous abonner au cours. Merci pour ton quiz, Marie.
Alors, bon, le papa pingouin.
Exactement. Merci de vous abonner au compte Instagram de Tourista. Continuez de chanter un petit peu pendant que je suis à la fin, c'est très bien. Et on se retrouve bientôt. On va mettre un bateau, un gros bateau à la fin. Pas un. Bah oui, un petit gros bateau. Un petit musique de fin.
C'est pas mal, non ?
Allez. Bravo.
Je peux imiter, on le fait tout le temps avec mes potes, l'arrivée du bateau du Blue Star 2 à Patmos.
Ok, vas-y.
T'as le... Ensuite... Parce que tout le temps que le truc... Le pont descend, ça fait ce bruit-là. C'est des trucs...
Pardon. Je crois qu'on a ce qu'il faut.
Ok.
Merci, à bientôt.